Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes en français, qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur cette antenne ou encore en podcast, ou encore même avec votre téléphone. De notre émission Parole Solidaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Ariane Oundefo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargée de communication chez ADRA France.
C'est ça.
Alors, ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un sujet qui concerne les enfants.
Oui.
Et qui concerne l'école. Alors, qu'est-ce que c'est, Ariane?
Alors, cette campagne, c'est une campagne de plaidoyer pour que tous les enfants du monde entier puissent aller à l'école. Alors, ça concerne tous les bureaux ADRA du monde entier. Cette campagne qui s'appelle Every Child Everywhere in School demande à ce qu'on obtienne le maximum de signatures, donc de faire une pétition qui va être adressée à un moment donné aux personnes compétentes qui vont pousser en fait notre volonté de faire que les enfants puissent avoir accès à ce dont on a droit aujourd'hui en France.
Et alors, si vous avez lancé une telle campagne au niveau international, ça veut dire que vous pensez qu'il y a une raison de le faire ?
Oui, il y a une vraie raison de le faire. Aujourd'hui, il y a 262 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école.
262 millions d'enfants, ça représente un enfant sur cinq, hein, je crois.
Oui, ça représente un enfant sur cinq et c'est énorme. On pourrait penser qu'aller à l'école, ce n'est pas la priorité déjà. Quand je dis qu'on pense, parle d'éducation ou d'enfants qui ne vont pas à l'école, on pense assez rapidement aux pays peut-être aux pays en développement.
Oui.
Et c'est vrai. On va penser aux pays où il y a le plus de pauvreté.
Par exemple, l'Afrique,
voilà.
L'Asie, peut-être certains pays d'Asie, pas
voilà.
Tous, mais certains pays d'Asie.
Voilà, ça concerne certains pays. Mais au total, ça fait un grand nombre. Et la réalité, c'est que ces enfants deviennent vraiment vulnérables à des choses qui ne sont pas acceptables aujourd'hui.
Mmh.
Ça va être vulnérable à des trafics, tout simplement, des trafics d'êtres humains, donc des enfants qui sont volés,
oui.
Qui peuvent être volés, qui peuvent être utilisés pour du travail forcé, des enfants qui vont commencer à travailler très tôt, qui vont être exploités. Mais ça, on connaît ces problématiques-là. On entend parler d'enfants qui travaillent dans des mines dans certains pays, qui sont envoyés qui font toutes sortes de métiers, qui ne sont pas de leur âge et qui mettent en danger leur santé physique, leur bien-être, leur développement physique, leur développement émotionnel.
Pendant que les petits Français sont au chaud sur les bancs de l'école.
Oui, oui, c'est les enfants en France vont à l'école et c'est un privilège.
Qui est concerné par ce problème? Je crois que c'est plutôt même les filles qui sont plus concernées encore par la question de ne pas aller à l'école.
Oui, on va dire que les filles vont être plus fragilisées que les garçons quand elles se trouvent dans cette situation. Par exemple, la tendance ce serait de les marier peut-être assez tôt. Et être mariée tôt, ça veut dire quand on est adolescente, il y a certains cas où on trouve des filles qui sont mariées dès l'âge de 11 ans, ce qui est très très tôt. Ce sont des filles qui vont tomber enceintes dans
très
l'adolescence,
jeune.
Très jeunes, qui vont se retrouver à être mères, qui vont devenir mères, et qui ne vont pas évidemment pouvoir avoir un travail suffisamment rémunérateur.
Donc, c'est, l'école, c'est ça que ça change, c'est d'être mieux rémunéré quand on travaille.
Oui, d'avoir des opportunités.
Ou d'avoir été à l'école.
Oui, avoir été à l'école, c'est très important. Ça permet d'avoir plus d'opportunités, d'être mieux rémunéré et voilà, de pouvoir avancer. C'est vrai qu'un enfant qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas atteint un certain niveau, qui est né en plus dans on va dire, dans un pays où il y a de la pauvreté, dans une famille pauvre, il ne veut pas voir les possibilités qui existent ailleurs. Il va se dire, moi, je ne peux faire que ça.
Alors qu'il y a plein d'autres possibilités qu'il ignore.
Voilà, tout simplement. Qu'il ignore, et que peut-être que même s'il n'ignorait pas cette possibilité, ben, il n'y aurait pas accès parce qu'il n'aurait pas les outils qu'il faut, tout simplement, pour accéder à d'autres opportunités.
Parce que l'école, c'est aussi l'éducation, en fait.
Voilà, c'est l'éducation, c'est apprendre des choses, c'est se former, c'est... Ce n'est pas forcément être sur un banc, ça aide à voir les choses autrement, à réfléchir, à avoir une certaine ouverture d'esprit. À l'école, on a des interactions avec d'autres personnes, avec des caractères différents. Ça aide à forger son caractère, ça aide à voir, ça aide à rêver aussi. Et c'est important de rêver quand on est enfant, de se dire « je peux devenir ci, je peux devenir ça ». Quand un enfant commence à penser très tôt « ah, j'aimerais devenir docteur », c'est un exemple. Je ne sais pas, j'aimerais faire de la mécanique. C'est une opportunité, ce sont des visions, mais ce sont des visions qu'ils ont eues à partir de quelque chose.
Et il faut l'apprendre.
Il faut l'apprendre.
Ça ne s'improvise pas.
Non.
Ariane, alors vous nous parlez de ces pays en voie de développement.
Oui.
Pourtant, la France peut être concernée à certains égards aussi par cette question d'aller à l'école pour les enfants, oui. Notamment pour les plus grands, c'est-à-dire pour les 15-19 ans, où il y a un taux de scolarisation qui est en baisse.
Voilà.
Comment est-ce que ADRA prend en compte toutes ces problématiques? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Alors, il est vrai qu'en France, on a l'opportunité de pouvoir aller à l'école. Ça veut dire que l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge. Il faut en profiter et même aller plus loin. Avoir au moins son bac, je pense que c'est une chose. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles des enfants arrêteraient d'aller à l'école. Mais s'il y a cette possibilité de pousser les études, il faut le faire. Car c'est dommage de se dire qu'on est dans un pays où on a des ouvertures, on a accès à cette éducation, on peut même avoir accès à l'université. Et ne pas prendre cette opportunité, c'est pouvoir dire plus tard « ah, si j'avais su, et ça existe ».
Et ADRA est soucieuse en particulier des enfants de réfugiés hein, qui sont sur le territoire français en ce moment, par exemple,
voilà.
Et qui sont là pendant des mois, voire des années, et qui ne vont pas à l'école.
Voilà, ce sont les enfants de réfugiés. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants vulnérables. Ce sont des enfants qui, on va dire, qui ne sont pas intégrés dans un système. Ce sont des enfants qui sont de vrais potentiels. Ce sont des enfants qui peuvent... apprendre, qui peuvent faire des choses, qui peuvent apporter à notre société. Ce sont des enfants qu'il faut considérer. Il faut savoir que l'école est obligatoire en France et elle n'est pas obligatoire que pour les Français. Elle est obligatoire pour tous les enfants. Donc il faut considérer aussi ces enfants-là qui sont bel et bien présents et qui ont besoin aussi d'apprendre, qui ont besoin aussi de se développer, qui ont besoin d'être au contact des autres enfants.
Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour faire entendre ce que vous êtes en train de dire? Parce que le dire, ça paraît assez simple.
Oui.
En réalité, ça ne l'est pas. Hein, ce n'est pas du tout simple ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Non, ce n'est pas du tout simple.
Et comment est-ce que vous pensez vous faire entendre? C'est par ce million de signatures dont vous parliez au début d'émission?
Voilà, c'est ce qu'on espère vraiment... avoir 1 million de signatures, mais 1 million de signatures à travers le monde entier. En France, évidemment, ce sera moins que ça. Notre objectif, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, est très humble. Donc très humble, ça veut dire 5 000 signatures, très humble. Mais cette campagne est poussée jusqu'au mois de juin 2020. Donc on espère que les personnes vont être touchées, vont signer. Même si autour de nous, on voit des enfants qui vont à l'école, il y a aussi des enfants qu'on ne voit pas tout simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école, mais ils sont bel et bien présents.
Alors les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui veulent aller ou qui veulent signer cette pétition ne vont pas forcément se déplacer pour venir jusqu'à chez vous. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est possible en ligne?
Ah oui, c'est possible de le faire en ligne en se rendant tout simplement sur notre site adra.fr/education. Et donc, vous arrivez sur la page éducation et la possibilité d'accéder à la campagne, de voir la petite vidéo ADRA du plaidoyer. Vous pouvez aussi vous rapprocher du référent ADRA, donc de votre antenne locale où que vous vous trouviez en France.
Alors, nous terminons cette émission et pour cela, je vous propose juste d'écouter un extrait du clip qui a été réalisé dans le cadre de cette campagne. Et nous entendrons justement l'extrait qui dit « Chaque enfant partout ». partout à l'école. Et donc, on peut revisionner aussi ce clip, comme vous l'avez dit, sur votre site, sur ADRA France.
Oui.
Voilà, c'était Parole Solidaire. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Every child, everywhere, just like me, can find hope in school,
where we learn to be free.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani, comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire.
C'est vous, votre histoire.
On peut voir aujourd'hui les fruits, qu'il y a eu un parcours qui n'a pas été tout facile, qui n'est pas encore parfait. Je ne veux pas dire que tout est rose, il y a encore des difficultés, mais où il y a eu un changement tellement grand. Et je trouve que c'est fou quand on fait un peu une rétrospective de sa vie et qu'on voit chaque petite chose où il y a eu la main de Dieu dessus.
Aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, on parle d'art. Elle est passionnée, rêveuse et pleine d'imagination. Depuis toute petite, Mélanie Roulin prend beaucoup de plaisir à exprimer sa créativité. Écriture, chanson, peinture, qu'importe, tant qu'elle peut créer. Ébranlée par les événements de la vie, elle a trouvé dans l'art une porte de secours. Mais le vrai remède semble ailleurs. Elle a raconté son histoire au micro de Joël Lehmann.
J'aimais faire des rôles devant les gens, avoir des costumes, être dans un personnage. Pour moi, ça m'aidait d'être face à un public et de pouvoir faire rire les gens, de pouvoir être valorisée dans mon potentiel. Et puis aussi, c'est quelque chose qui me remplissait de joie de le faire et puis qui me donnait beaucoup de plaisir. Je me rappelle aussi qu'avec mon frère, on préparait à chaque fois pour Noël des petits spectacles et on inventait tout de A à Z. Et c'était un des moments de l'année où je me réjouissais le plus vraiment de pouvoir créer des choses et puis après de pouvoir les montrer, de donner aussi du plaisir aux gens, de les faire rire et puis à l'inverse aussi nous d'en avoir. Mon adolescence, j'ai vécu une adolescence plus sombre avec des épreuves difficiles. C'est vrai que du coup j'allais moins bien, mais la créativité, les arts, ça m'a aussi beaucoup aidée dans ces moments-là, d'être seule même dans ma chambre à danser, chanter, où je me sentais mieux. Je pouvais m'évader, m'exprimer, mais aussi surtout par le biais de la peinture ou de composition musicale, parce que j'ai composé des chansons, donc la musique et les paroles. Ça me permettait vraiment d'exprimer ce qu'il y avait au fond de moi, mes émotions que j'arrivais pas forcément à faire sortir autrement que par les arts, puis de pouvoir comme ça m'évader mais aussi me libérer. Souvent d'écrire, ça me permettait de mettre sur papier ce qui se passait à l'intérieur de mon cœur, et puis je dirais dans ma relation aussi avec Dieu, comme je suis chrétienne, de pouvoir lui dire en fait mes peines, mes questionnements, mes rêves, de pouvoir faire tout sortir à quelqu'un. Ça m'a aidé aussi à sortir un peu de ce côté plus sombre de ma vie, à être joyeuse quand même dans ces moments-là, être mieux. C'était vraiment un temps où j'ai pu utiliser ça aussi pour Dieu. Pour moi, c'est des dons que Dieu m'a donné, la créativité ou ces dons artistiques. Et là, vu que c'était dans le cadre de spectacles chrétiens, ça me permettait de l'utiliser pour lui et de toucher aussi d'autres gens qui ont passé par les mêmes situations que moi. Parce que je pense que dans les arts, ça nous permet nous-mêmes de nous exprimer, de nous faire du bien. Mais ça permet aussi, avec l'émotion qui est transmise aux gens, d'être touché, quelque chose qu'on ne peut pas retrouver forcément des fois en parlant avec une personne.
L'auteur conférencier britannique Ken Robinson, expert en éducation internationale et pour le développement de la créativité, disait « La créativité, c'est avoir des idées qui apportent de la valeur ». Mélanie Roulin nous le confirme en partageant son quotidien.
J'utilise aussi ces dons-là dans mon travail parce que je suis enseignante à l'école primaire et je vois que ça fait partie de moi depuis mon enfant jusqu'à maintenant, et je pense que ça a toujours ce besoin de créer, d'avoir la créativité dans ce que je fais. Et c'est un métier, du coup, j'y trouve mon compte parce que je suis tout le temps en train de créer, que ce soit au niveau matériel scolaire, fiches, mais aussi dans ma façon d'enseigner, d'être créative, d'apporter certains cours différemment, que ce soit plus passionnant aussi pour les enfants, mais aussi je demande souvent aux enfants de montrer ce qu'ils savent faire, leurs dons aussi, que ce soit artistique ou non, que ça peut être sportif et autres, qui puissent le montrer aux autres camarades. Et puis souvent, à la fin de l'année, on prépare un spectacle. Et pour moi, c'est incroyable de voir qui vivent certaines choses que j'ai vécues. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tellement introvertis en classe et puis là, sur scène, c'est plus la même personne. Et je me dis que c'est des choses, des petites choses maintenant, alors qu'ils sont enfants, qui vivent, mais qui vont peut-être, comme moi, ça a été le cas, avoir un impact plus tard dans leur vie, qui vont pouvoir en faire quelque chose plus tard. En fait, dernièrement, je me suis aperçue qu'il y a plein de choses qui se passent bien dans ma vie, qui sont géniales. Et en fait, en revenant un petit peu dans mon passé, je me suis dit que ça n'a pas toujours été si facile. Il y a eu des grandes épreuves dans ma vie, des événements où j'en parle pas forcément aux gens. Et je me dis, mais ça vaut la peine peut-être d'en parler parce que du coup, c'est encourageant de voir où j'en suis maintenant et que ce serait peut-être pas le cas si j'avais pas eu Dieu, justement, ma foi, dans toutes ces étapes de ma vie. Il y a eu un accident avec mon frère que j'ai vécu quand j'avais 4 ans, où on a failli mourir et puis où mon frère a été gravement accidenté. Donc, c'est un des événements que je retrace parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile à vivre. Il y a eu beaucoup de conséquences dans notre famille suite à cela. Aussi, une épreuve difficile avec mes parents qui ont failli se séparer, où il y a eu beaucoup de disputes, où c'était quelque chose de difficile à vivre à la maison. mais où justement ils ont décidé de rester ensemble. Ils étaient aussi chrétiens, ils ont remis ça à Dieu et de faire le choix de s'aimer. Ouais, toutes ces choses en fait depuis mon enfance, ça a engendré en moi des conséquences plus tard. Je dirais qu'ils sont ressortis à l'adolescence. Aussi, je dirais, comme je pense beaucoup de monde, ce que j'ai pu vivre à l'école, de vivre le rejet, d'avoir des groupes dans lesquels auxquels on n'a pas forcément envie d'appartenir, mais qui fait que si on n'y appartient pas, on nous met de côté, d'avoir des valeurs différentes en étant chrétienne, de pas forcément vouloir faire la même chose que les autres. Ouais, le rejet, c'était quelque chose de difficile pour moi à vivre, alors qu'avant, j'étais très bien entourée, j'avais beaucoup d'amis, et de vivre ça à cette période, de pas se sentir forcément à la hauteur par rapport aux autres. Et ouais, qu'en fait que c'était très dur, que je me suis beaucoup renfermée. Je suis devenue plutôt introvertie et plutôt sombre. Donc après, je raconte aussi que c'est ça qui m'a fait suivre un peu certaines amies dans des fêtes, dans l'alcool, pour pouvoir oublier, un peu m'évader, faire comme les autres. Et pourtant, ça ne réglait pas mes problèmes. Je me sentais en fait mal. Au fond de moi, j'avais un gros mal-être et j'arrivais pas à trouver des solutions concrètes pour aller mieux. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai eu des pensées très sombres qui m'ont poussée à des tentatives de suicide. Et en étant tellement désespérée, c'est là où j'ai vraiment crié à Dieu et puis où j'ai dit, j'ai besoin que ça change et que si t'existes, ma vie, elle puisse changer. Et puis Dieu a répondu à cette prière. Justement, il m'a sauvé de ma détresse, il m'a entouré avec des amis et un copain qui est devenu mon mari qui m'ont aidé justement à aller mieux, parce que je pense que Dieu il répond par lui-même, mais il met aussi des personnes sur notre route pour nous aider. J'ai toujours eu ma famille qui est incroyable et qui m'a beaucoup soutenue, donc ça m'a aidée aussi de voir que Dieu a répondu pour m'aider à réussir même quand c'était plus dur, de pouvoir faire le métier que j'aime, de pouvoir être mariée et de concrétiser des projets. Je peux voir aujourd'hui les fruits, qu'il y a eu un parcours qui n'a pas été tout facile, qui n'est pas encore parfait.
Parmi les nombreux projets créatifs de Mélanie, il y a Sans repères, une comédie musicale créée par des amateurs dont notre invitée fait partie. Un spectacle qui aborde avec humour et émotion le thème du sens de la vie. C'est l'histoire de deux jeunes adultes qui vivent des situations difficiles à l'image de ce qui se vit bien souvent à l'heure actuelle.
Ça m'a vraiment parlé en jouant un des rôles principaux, de revivre un petit peu au travers de cette comédie une partie de ce que j'ai vécu dans ma vie. Donc c'était d'autant plus fort pour moi de pouvoir l'exprimer et de pouvoir y mettre les émotions, parce que c'est des choses que j'avais vécues, justement, de me réfugier dans d'autres choses, mais qui me comblaient pas pour autant, qui réglait pas mon mal-être, et de pouvoir montrer que avec Dieu, c'est ça qui apporte la vraie solution, qui apporte vraiment un amour qu'on peut pas trouver ailleurs, trouver une paix, trouver une espérance, et ouais, une joie, une satisfaction. Et justement, moi je jouais le rôle d'une fille dont la famille s'est divorcée, enfin les parents se sont divorcés. Et puis qui a des problèmes dans la relation avec son père, mais qui du coup des problèmes aussi dans son estime, dans sa relation avec les garçons, avec plusieurs choses que j'ai vécues. Et ce qui est drôle, c'est que dans cette comédie musicale, le rôle du papa, celui qui jouait mon papa, c'était mon vrai papa. Donc ça nous a permis aussi de revenir sur certaines choses du passé qu'on a vécues, qu'on retrouvait dans cette pièce, même si c'était quand même pas au même degré. Et de voir comment notre relation elle a évolué depuis, et qu'on s'est pardonné, de vivre ça complètement différemment, ça nous a aussi touché de voir maintenant avec Dieu où on en est. Et c'était défiant, mais en même temps c'était encourageant de se dire on espère que ça va aider d'autres personnes à aussi vivre des guérisons dans leur famille, le pardon, etc. Et puis, ce qui était très émouvant pour moi, c'est d'avoir ce rôle-là. Parce que, comme j'ai dit avant, c'était un rêve pour moi de faire une comédie musicale et de pouvoir le concrétiser.
Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.
Vous vous sentez isolé, désorienté ? Perdu? En recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, Votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. Veuillez également noter que vous pouvez nous écouter à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres. Bien sûr, tout cela en temps universel. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la Voix de l'Espérance. IEBC, boîte postale 177-193, Damarie-Lévis, Cedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain, à la même heure, pour notre nouveau programme. Au revoir.